Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo au fil de la Haggadah, troisième partie. Donc, dans notre vidéo précédente la semaine dernière, eh bien, nous avons expliqué et nous sommes arrivés à Tse'ulmad Mabikesh Lavan Arami. On avait parlé de l'assimilation grandissante et de ce danger que représentait Lavan. Dans la suite de la Haggadah, eh bien, on nous raconte en fait toute l'histoire pour arriver au point culminant de l'histoire, depuis Vayered Mitzrayma, que Yaakov est descendu en Égypte, et on nous raconte toutes les péripéties, en fait, de la fin du livre de Bereshit jusqu'au milieu du livre de Shemot, pour arriver au point culminant qu'on va aborder ce soir, le fameux moment où les gens se réveillent un petit peu. Non, parce que faut pas être dupe. Je ne sais pas comment vous vivez vos darim d'habitude, je ne sais pas comment vous allez vivre votre seder confiné cette année, mais une chose est sûre, entre la partie des quatre enfants, et donc je ne vais pas revenir sur les quatre enfants parce que nous avons étudié cela ensemble dans le cours de jeudi soir dernier, donc là je vais arriver directement à autre chose. Et donc, quand on a fini le passage des quatre enfants qui nous a tenus en haleine, eh bien après, il faut bien le dire, on rentre dans un long texte qui peut sembler aussi long que l'exil, et très souvent, eh bien, les gens sont fatigués à la fin de ce texte. Et donc, il y a un moment donné, on a une coupure, on va faire quelque chose, on va recommencer à agir et non pas seulement lire. Et cette action, eh bien, on la retrouve au moment où on arrive au diplet. Lorsqu'on arrive au diplet, point culminant de l'histoire, ça y est, on va sortir d'Égypte et Akadosh Baruch Hu va envoyer diplet. Et donc, on a l'habitude, alors ça dépend des minagim, chez les Sfaradim, on a l'habitude de prendre le verre de vin et de verser un petit peu à chaque fois de vin. Pour ce qui est des Ashkenazim, on a l'habitude de prendre le petit doigt comme ça et de tremper chaque plaie et de mettre une goutte de vin sur l'assiette. Mais attention, ne pas se lécher le petit doigt après. Et il y a plein de grands-pères qui aiment donner des explications par rapport à cela. La briyoute. Ce que j'aimerais qu'on essaie de comprendre ensemble, c'est cette dimension des dix plaies. Cette dimension des dix plaies qui nous est évoquée, mais qui nous est évoquée de manière bizarre. Alors, vous le savez, dans la Haggadah, on nous dit d'avoir acher beyat chazaka shtaim uzran toya shtaim uvemora gadol shtaim uveotot shtaim mofetim shtaim elu esher makot shevi akadosh baruch hu avotenu al haMitzrim beMitzrayim. Donc la Haggadah termine son récit en nous disant finalement Dieu va donner les dix plaies aux Égyptiens. Bon. Évidemment, vous les connaissez, Dam, Tzvardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Barad, Arbe, Choshech, Makat, Bechorot, le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, même si c'est pas très clair que ce soit des bêtes sauvages, mais enfin bon, disons, Dever, la peste, Shrin, les ulcères, Barad, la grêle, Arbe, les sauterelles, Choshech, l'obscurité, et Bechorot, la mort des premiers. Bon, et tout ça, c'est des choses qui sont connues. Je voudrais donc, avant de revenir au diplé à proprement parler, essayez de voir la suite, parce que la suite est très bizarre. On va passer en revue quatre rabbins qui ont une façon différente de compter les dix plaies. On va avoir l'avis de Rabbi Yehuda, on va ensuite avoir l'avis de Rabbi Yossé, on va ensuite avoir l'avis de Rabbi Eliezer, et ensuite l'avis de Rabbi Akiva. Quatre rabbins qui, pour eux, ce n'est pas véritablement dix plaies qu'il faut compter, mais le décompte doit être différent. Rabbi Yehuda, Ayanoten Baem Simanim, Detsar, Adash, Be'achav. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas dix plaies, il y en a en fait trois. C'est un ensemble, c'est trois. C'est-à-dire que c'est un ensemble de trois. Trois, trois et quatre, en fait. Rabbi Yehuda, pour lui, il fait des groupes. Les dix plaies, en fait, c'est pas dix plaies, c'est trois plaies et quatre plaies. Ça va ensemble. Il y a trois groupes. Donc pour Rabbi Yehuda, il y a eu trois plaies. Pour le mainstream, on a dit 10. Mais pour Rabbi Yehuda, il y a eu 3 plaies. Ensuite, quand on continue à regarder le texte, eh bien, on se rend compte que chez Rabbi Yossé à Galili, celui qui vient après Rabbi Yehuda, eh bien, quand on regarde ce que nous dit Rabbi Yossé, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment il arrive à ce calcul-là, mais finalement, il nous dit que « Emor me'ata, mi'mitzraim laku eser makot, ve'alayam laku hamishim makot ». C'est-à-dire que Rabbi Yossé nous dit finalement, d'après lui, il y a eu en tout et pour tout 60 plaies. Non pas 10, non pas 3, 60. Ouah, Rabbi Eliezer, lui, va beaucoup plus loin. Et là, encore une fois, vous pouvez regarder dans le texte de la Haggadah comment il arrive à son calcul. Mais finalement, il arrive à... Et donc, « Emor me'ata be'mitzrayim laku arba'im makot ve'alayam laku me'ataim makot. » C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, au total, il y a eu 240 plaies. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on va voir Rabbi Akiva, Bichlal, il dit « Emor me'ata » En Égypte, ils ont eu 50 plaies et sur la mer, 250 plaies. En gros, nous dit Rabbi Akiva qu'il y a eu en tout et pour tout 300 plaies. Alors, on est loin de nos 10 plaies qu'on avait vues dans le prince d'Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en vérité, si on fait un tout petit calcul très très rapide de nos 4 avis, plus le mainstream, donc c'est-à-dire Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et le Baal Haggadah, et la Haggadah, eh bien, on va se rendre compte que ça nous amène à 300, plus 240, ça nous amène à 540, plus 60, 600, plus 3, 603, et plus 10, 613. Ah ah! Il y aurait donc eu en tout et pour tout, 613 makot. Et le fait de dire ce mot-là, enfin cette phrase-là et ce chiffre-là, évidemment me fait me poser une question. Parce que 613, ça sonne connu. Eh oui, on ne peut pas ne pas penser aux 613 mitzvot, bien sûr. En d'autres termes, la Haggadah nous dit quoi? Nous dit qu'il y a eu 10 plaies. Mais ces 10 plaies étaient en potentiel. Ce qui va finalement se dévoiler par 613 makot. De la même façon que pour les Aseret Adibrot, pour les 10 commandements, eh bien, dans la tradition d'Israël, va voir dans les Aseret Adibrot le potentiel, l'origine des 613 mitzvot. Il y a donc une corrélation évidente entre les makot et les mitzvot. Je veux que vous compreniez bien. Quel était l'objectif d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il amène les plaies à l'Égypte? L'objectif est très simple. Leman yeda mitzrayim ki ani Hashem. L'objectif est énoncé dans la Torah pour que l'Égypte sache que je suis Dieu. En d'autres termes, il s'agit ici d'un dévoilement. Un dévoilement par 613. La question, c'est évident. Nous aussi, nous allons avoir un dévoilement de Dieu par les Aseret Adibrot qui vont devenir les 613 mitzvot. Donc la question est de savoir pourquoi 613 et pourquoi est-ce que là ce sont des dibrot et là ce sont des makot. Eh bien c'est pas shoot. Les 613 mitzvot nous disent nos sages qu'ils sont eux aussi subdivisables en 365 et 248. 365, 248, quel rapport? Oui, 365 mitzvot assez. Et 248 mitzvot lota assez. 365 commandements positifs. Tu feras ça, ça, ça et ça. Et 248 commandements négatifs. Qui sont à mettre en relation d'après la tradition d'Israël au chassa gidim veramach evarim. Aux 365 tendons et 248 organes internes. Je ne sais pas au niveau médical si ça marche, mais on s'en fiche. Parce que la Torah n'est pas un livre de médecine. Au niveau moral, il va falloir essayer de comprendre de quoi il s'agit. En d'autres termes, il s'agit de tout le fonctionnement de ton corps. Si tu utilises ton corps pour faire le bien, alors le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sera pour toi des dibrot et des mitzvot. Si tu utilises ton corps n'importe comment pour faire le mal, comme l'ont fait les Égyptiens, eh bien ça deviendra tariag makot. Vous comprenez donc qu'il y a une relation évidente entre les mitzvot, les makot. Et dans la Haggadah, dans l'histoire, dans la Torah, on nous parle de 10 makot. Et de la même façon, on nous parle de la Seret Adibrot. Et si je dis qu'il y a une telle relation entre les deux, eh bien, vous comprenez bien qu'on doit mettre l'accent, mettre le doigt sur la relation entre la Seret Adibrot et les Esser Makot. Alors, je vous propose d'y aller. Vous allez voir qu'en vérité, le lien est évident. La première plaie, c'est la plaie du sang. Le sang, c'est Mida Keneged Mida. Les Égyptiens ont été frappés par le sang parce que eux-mêmes ont répandu le sang Comment ont-ils répandu le sang lorsqu'ils ont massacré les enfants juifs en les balançant dans le Nil ou en les massacrant? En d'autres termes, le sang, pour nous, symbolisait tout l'esclavage. Combien de dos ont été ensanglantés par des coups de fouet de leurs maîtres égyptiens? Et donc, pour faire référence à cette plaie du sang, eh bien, au niveau des dibrotes que nous, on va recevoir, c'est Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'es plus celui qui va se faire ensanglanter. La deuxième plaie, c'est la plaie des grenouilles. Ah oui, d'accord. Mais si on continue dans la corrélation, eh bien, c'est à mettre en relation avec l'interdit de faire d'idolâtrie. Quel rapport avec les grenouilles? Eh bien, comme vous le savez, en Égypte, le panthéon égyptien, tous les dieux de l'Égypte, sont des divinités à forme humaine avec une tête d'animal. Vous en connaissez peut-être certains, Anubis le chacal, Horus, le dieu solaire avec son faucon. On a plusieurs comme ça, Hathor, la déesse de l'amour avec la vache. Mais il y a une déesse égyptienne que vous ne connaissez pas. Elle est moins connue que les autres et pourtant, elle est la mère des dieux. D'après le panthéon égyptien, elle s'appelle Heket. Et Heket, eh bien, je vous le donne en mille, c'est une divinité représentée par une tête de grenouille. Maintenant, comprenez-moi bien. Moi, je vous dis ça maintenant parce que je suis fan de mythologie. Et mais les gens normaux, ils ne connaissent pas ça. Mais en Égypte, les Bnei Israël qui habitent en Égypte, ils connaissent très bien la mythologie égyptienne. Ils la vivent au quotidien. Donc, lorsqu'on va voir une grenouille sortir du Nil, ce qui correspond très bien à la mythologie égyptienne, que les dieux sont sortis du Nil. Vous comprenez bien qu'ils font tout de suite le... Donc, les grenouilles, qui étaient donc Rekhet, la déesse égyptienne du Nil, mère de tous les dieux, eh bien, face à cela, Dieu nous dit à nous, tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Enfin, non. Ensuite, troisième plaie, c'est la plaie des kinim, des poux. Il y a une particularité dans ces poux. C'est quoi la particularité? Eh bien, c'est qu'au moment où ils ont vu les poux, les mages égyptiens qui avaient réussi à reproduire la première et la deuxième plaie n'ont pas réussi à reproduire les poux. Dit la Torah qu'à ce moment-là, les mages égyptiens ont dit « Etzba Elohim hi », c'est le doigt de Dieu. Genre, on n'arrive pas à reproduire ça. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Nouvé. Alors, quel rapport? Eh bien, ils ont été capables d'invoquer le nom de Dieu. Pour la première fois, la plaie des poux leur a permis d'invoquer le nom de Dieu. Ils ont dit « Etzba Elohim ». Le seul problème, c'est qu'avec ce nom de Dieu qu'ils venaient de découvrir, ils en ont fait n'importe quoi. Face à cela, « Ata lotissa Hashem 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 », tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Enfin, je dis enfin tout le temps, je m'embrouille. La quatrième plaie, c'est la plaie de Harov. Harov. Alors, dans les Haggadotes dessinées, on parle des bêtes sauvages. Faut savoir d'abord que c'est une marloquette dans le Talmud. Est-ce que c'est des bêtes sauvages ou est-ce que ce sont des espèces de puces? Mais on s'en fiche. Parce que la Haggadah n'a ni parlé, la Torah non plus d'ailleurs, n'a ni parlé ni de bêtes sauvages ni de puces. Elle a parlé juste de Harov. C'est-à-dire qu'on veut que tu prennes conscience que cette quatrième plaie, son rôle, c'est d'être mitarbev bachaim shelcha, de se mélanger. Harov, ça veut dire mélange. De se mélanger à toute ta vie et te faire souffrir avec ça. Quel rapport avec nous? Eh bien, si vous avez suivi, vous comprenez qu'on arrive maintenant à Zachor et Yom HaShabbat le Kodesho. Quel rapport? Mais je vais vous dire le rapport. Le rapport, il est très simple. Shabbat. Shabbat, c'est le moment où tout d'un coup, la Torah, Akadosh Baruch Hu, vient s'immiscer dans tous les domaines de la vie. Vous comprenez? Dans la vie de tous les jours, il y a plein de domaines qui sont parvés, qui sont ni interdits, ni permis, qui sont a priori pas du domaine de la Torah. Alors, je dis a priori, parce que les grands tzadikim, eux, bien sûr qu'ils ressentent le lien avec le dévoilement de Dieu dans chaque chose. Mais pour le commun des mortels, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment... D'ailleurs, je vais vous prendre le plus extrême de l'extrême. Quand vous allez aux toilettes, bimkhila lichvotrem, c'est la Torah. D'ailleurs, j'ai même pas le droit de penser à de la Torah là-bas. Zélo Torah. Je fais mes besoins, Zélo Torah. Je vais pas y dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et encore une fois, Bimkhila, quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, je prends mon papier toilette, je m'essuie. Ah, la même action Shabbat devient tout de suite une grande question halakhique. Est-ce que j'ai le droit de couper le papier toilette? Comment j'ai le droit? Chinouille, pas chinouille? En d'autres termes, une action qui avait l'air tellement éloignée de la Torah, en fait, Shabbat devient centralité de la Torah. J'ai ramassé un caillou. J'ai ramassé un caillou par terre. Shabbat, le caillou, il devient moukhtseh. En d'autres termes, Shabbat, c'est le moment où la Torah s'immisce dans tous les domaines de la vie. Ah ben, pourquoi faire? Et pour les Tovas, pour qui veut Shabbat vaïnafash, qui veut Shabbat, parce que je peux ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc, chez eux, le Harov leur a mis la vie dure. Chez nous, le Shabbat nous permet d'avoir une connexion en Wi-Fi, en 5G, avec Kadosh Baruch Hu. Ensuite, nous avons la plaie de quoi? De la peste. Dever. Dever, c'est la mort. Onkelus traduira Dever par Mota. La mort, la peste. Mais cette mort-là, elle vient parce que ici en Égypte, on n'était pas capable de sanctifier la vie. On était mezalzel b'chaim. On n'avait aucun respect pour la vie. Donc par rapport à cela, le Ham Israël, on lui dit, toi, tu vas respecter ceux qui t'ont donné la vie. Kaved et avicha ve et imecha. Après cela, on arrive à la plaie de Shrine, les ulcères, qui sont en fait la mort du corps de l'homme. Petit à petit, le corps se fait grignoter par ces ulcères. C'est la mort physique. Alors que la peste était plus du domaine de, pas seulement la mort physique, mais aussi de tout ce qu'elle représente la vie. Ici, dans la plaie de Shrine, on parle de la mort du corps. Mort physique. Face à cela, à toi, on te dit, lo tirtzach. Tu ne prendras pas la vie. Après, nous arrivons, après la plaie des ulcères, nous arrivons à la grêle. La grêle avec son feu dévorant. Eh oui, tu sais que le feu dévorant, c'est le lien qu'il y a avec le transcendant, le lien qu'il y a avec les cieux. Eh oui, parce qu'il n'y a que dans les cieux qu'il peut y avoir de la glace, donc de l'eau, et du feu en même temps. Dit la Torah que dans la grêle, il y avait un esh. Il y avait un feu dévorant à l'intérieur de la grêle. Or, dans notre monde, le feu et l'eau ne peuvent pas coexister. C'est soit il y a du feu, soit il y a de l'eau. Dans le monde de là-haut, shamaim, c'est nous disent nos sages, esh vemaim. La dimension de là-haut, c'est une réunion de esh vemaim. Tov, zeh beseder. Mais la question est de savoir dans notre monde, qu'est-ce qui nous vient directement de Shamaïm? Il y a plein de choses où Akadosh Baruch Hu est partenaire. Et sans lui, je ne peux pas y arriver. Comme par exemple la vie elle-même. Mais sauf que la vie, ce n'est pas uniquement Akadosh Baruch Hu qui m'a donné. C'est aussi mon papa et ma maman. Bien sûr, sans Dieu, il n'y a pas la vie. Mais s'il n'y a pas papa et maman, il n'y a pas la vie non plus. Il y a pourtant une chose qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous dit la Torah, on va s'arrêter qu'à là. Mishnah Atlicha, à propos de ce verset de la Torah, vous vous rappelez lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, vient voir Lavan, toujours notre même Lavan, parce qu'il veut ramener Rivka à son maître Yitzhak, eh bien, à ce moment-là, hein, Lavan lui dit, Mais Hachem yatsa adavar. Lavan dit, Mais Hachem isha leish. De là, on apprend que le shidour, l'union, le couple, c'est une notion qui nous vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, en Égypte, la cellule familiale n'existait pas. Il y avait une perversion terrible, à tel point que Pharaon couchait avec ses filles. Ah non, non, mais c'est un autre délire. Face à cela, ata lo tinaf. Tu ne feras pas d'adultère, tu ne violeras pas ce couple qui est ce qui dévoile Akadosh Baruch Hu. Après, nous avons la plaie des sauterelles. Ah, les sauterelles, baro, elles bouffent tout. Elles bouffent tout. Mais c'est incroyable, mais ce n'est pas elles. Elles n'écoutent pas de notes. Ce n'est pas elles, tous ces champs. Elles viennent voler. Comme les Égyptiens, ils ont volé les biens de tous ceux qui étaient inférieurs à eux. Face à cela, ata lo tignov. Nous avons ensuite à la plaie des ténèbres. Plaie des ténèbres. Ah, ténèbres, pashout. Dans la plaie des ténèbres, les gens ne voyaient plus. Ils étaient devenus aveugles. Nounou, d'après le livre de Devarim, qu'est-ce qui rend aveugle? Qui a achochad, ken yaver eine chachamim pesalev divrei tzadikim. Achochad, la corruption, le mensonge, tout ça dans la justice, c'est-à-dire une justice qui est pervertie et corrompue, c'est ça qui assombrit l'œil de la cité, c'est ça qui assombrit la capacité des chachamim de voir la vérité. Eh bien, face à cela, dans une génération comme l'Égypte qui était complètement corrompue, eh bien, toi, tu ne feras pas de faux témoignages. Et enfin, nous arrivons au dernier, à la dernière, ça y est, moi je peux dire enfin, la dernière des 10 plaies, Makat Bechorot. Makat Bechorot, nounou, ma kesher. Pas chout. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis le début de la Torah, les Bechorot, ça ne marche pas génial. Mais maître, ce n'est pas dans l'ordre des 10 commandements. Ah ben si. Ah ben si, je suis en train d'expliquer dans l'ordre des 10 commandements, mamache. Je vois pas ce que tu veux dire, monsieur Alex. Je suis en train justement de passer plaie par plaie, le faire correspondre avec chacun des 10 commandements. Bah alors. Et donc j'arrive au dernier, la plaie de Makat Bechorot. Et je disais, les Bechorot, si on regarde bien dans la Torah, c'est là Vad Miyodehama. Et à chaque fois que ça n'a pas marché, pourquoi? C'était parce qu'il y avait une histoire de jalousie. Caïn était jaloux de Havel, Ishmael était jaloux de Yitzhak, Esav jaloux de Yaakov. Pour remédier à cela, il faut arriver à un Bechor qui n'est pas jaloux. C'est l'époque de Moshe, où Aaron, non seulement n'est pas jaloux de son petit frère, mais heureux. On dit la Torah, Vera'acha v'samach belibo, que Aaron était heureux de voir la grandeur de son petit frère. Ainsi, par rapport à cela, eh bien, toi, on te dira dans le dernier des 10 commandements, tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient à ton prochain. Vous voyez donc qu'il y a une corrélation évidente entre les 10 commandements et les Aseret HaDibrot. Les Égyptiens ont fait de leur corps un outil pour faire le mal, et donc c'est devenu Aseret HaMakot, qui sont devenus Tariag 613 Makot. Nous, nous devons prendre sur nous de faire en sorte qu'on utilisera notre identité pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire des Aseret HaDibrot, qui deviendront les Tariag Mitzvot. Et donc, bah, une fois qu'on a dit ça, on est bon, on peut faire une espèce de conclusion. Conclusion de la Haggadah, presque, hein, on n'a pas fini, mais conclusion de la Haggadah avec ce fameux chant, cette chanson que tout le monde connaît, que tout le monde aime, le fameux Dai Dayenu. Quelqu'un, je vous vois déjà en train de chanter. Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, 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 Nounou. Et on se rend compte de quelque chose de fantastique. Et là, je vais vous donner le commentaire extraordinaire de ma fille de 12 ans, parce que après, je dirais ce que j'en pense également, mais ma fille de 12 ans, elle a vu ce chant d'Ayenu. Et en fait, on passe sur chaque étape que la Kadosh Baruch Hu nous a fait. Et à chaque fois, on s'arrête à l'étape et on dit d'Ayenu. Et nos sages nous ont appris de dire que d'Ayenu kedeleodot. C'est tov. Par exemple, alors je vous lis, hein, vous connaissez, ilo tsianu mitzrayim velo asabem shvatim d'Ayenu. Si nous avions sorti d'Égypte et ne les avait pas éclaté les Égyptiens, d'Ayenu kedeleodot. Viens ma fille de 12 ans. Et dit l'eau. L'eau d'Ayenu que de l'eau, c'est pas vrai. Parce que si on était sorti d'Égypte, mais que Dieu n'avait pas neutralisé les Égyptiens, bah, 5 minutes plus tard, il serait revenu nous reprendre. Ou alors, je sais pas moi, Ilou Kervano Lifne Arsinaï, Velo Natan Lano et la Torah d'Ayenu. S'il nous avait amené au Mont Sinaï, il nous avait pas donné la Torah d'Ayenu. Bah, re ma fille. Elle dit, bah non, Mazé Dayenu, on serait arrivé devant une montagne. Nous, Vé, Elama. Nous dit ma fille, bah, Emouna Pnina, qui a écrit un commentaire de la Haggadah, qui s'appelle Pnine Emouna. On essaye de donner des vidéos comme ça chaque jour jusqu'à Pessah. On voulait imprimer, c'était ça, non, ma fille faisait Bat Mitzvah, ce Shabbat, Shabbat Agadol. Donc on a dû repousser à cause de notre ami Corona. Mais donc, elle a écrit un pérouche de la Haggadah de Pessah. Et donc, dans son pérouche, elle nous dit que Dai Dayenu, en fait, représente l'essence de ce qu'on doit comprendre à Pessah. Elle a appris, c'est ma faute, c'est moi qui lui ai dit, mais elle a appris que l'Admor HaZaken, le premier fondateur de Chabad, eh bien, nous apprend que l'essence de chaque fête se trouve 30 jours avant la fête. 30 jours avant la fête, c'est l'essence de la fête. Et donc, si on regarde bien, l'essence de Pessah, c'est Pourim. Et donc, me dit ma fille, à Pourim, Vena Aforu. Donc, en fait, tout ce piyout où on dit à chaque fois « Dayenu », ça ne peut pas être que des lodot, parce que non. Et Lama, il dit à chaque étape, le « Dayenu », le « Enu », c'est pour nous dire que c'est nous qui parlons de cela. Mais il nous dit, dans chaque étape, il y a « Day ». Mais il ne faut pas dire « Day ». Il faut lire « Vena Aforu ». Il faut lire « Yad ». L'inverse de « Day », « Yad ». Pour dire que dans chaque étape, tu dois être capable de voir comment Akadosh Baruch Hu a mis sa main pour nous dévoiler sa présence. C'est Chidush Atsum du Pnine Emouna de ma fille. Bah, je ne vais pas contredire ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai. Mais je voudrais juste dire une chose, une autre chose. C'est, on aurait dû le faire par nous-mêmes. C'est un gnout le chant d'Ayenu. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça, c'est, tu rajoutes quelque chose de fantastique. C'est pourquoi est-ce qu'on a dû attendre qu'Akadosh Baruch Hu le fasse? Baro. Maintenant, si tu regardes bien, il y a un truc qui est encore plus bizarre dans cette histoire de Dayenu. C'est que tu termines l'histoire, tu dis, Ilo ichnesanu l'Eretz Israël, volo banal bet abichra ou bet amigdash, Dayenu. Et là, tu dis, bah, c'est bon, j'ai fait toute la liste. Sauf que la Haggadah, elle reprend toute la liste. Et dit, ah, kama vechama tova kvula mokupelet la makom alenu shot, yannou mitraim versa, ben shvatim versa, ben loyem verag, mechorem. Donc, on reprend toute la liste. Pour terminer finalement en disant, ou banal anou et bet abichra ou bet amigdash, ça dépend de la Haggadah, l'echaper al kol avonoten. Il y a une petite différence dans la deuxième dimension, c'est l'echaper al avonoten. Dans la première façon, la première version, dans la chanson, on ne dit pas que le Beth Amikdash sert à l'échapper. C'est là qu'il faut comprendre que dans notre relation au Beth Amikdash, eh bien, nous pouvons avoir deux relations. Soit il est Beth Amikdash tout court, soit il est Beth Amikdash que dès l'échapper. En d'autres termes, si tu as fait une faute, le Beth Amikdash peut te servir d'un endroit où tu peux l'échapper, emmener ton korban de kapara. L'échapper à la vonoten. Aval, ça c'est que si tu as fait une faute. L'idéal, c'est que tu viennes au Beth Amikdash et que tu amènes un korban, pas pour les chaper, mais que tu amènes un korban toda, un korban shlamim, un korban qui n'est pas là pour expier quoi que ce soit, mais qui au contraire est là pour montrer ton rapprochement. Korban, ça vient du mot karov, proche, ton rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Les amis, c'est de cela qu'on parle dans la Haggadah. Comprendre que nous avons un rôle de dévoiler à Kadosh Baruch Hu par les Aseret HaDibrot qui sont Tariag Mitzvot et non pas par les Tariag Makot qui étaient les 10 plaies mentionnées dans la Torah. Pour cela, pour être conscient et capable d'utiliser notre identité pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu, bien, il faut être conscient que Yad Hashem poel dans chaque instant, dans chaque étape et qu'il ne s'agit qu'à toi de voir la main de Dieu qui bosse. Comme a dit notre ami Alex, eh bien, il faut également prendre conscience que ce n'est pas que à Dieu de faire, mais il est temps que toi aussi tu bosses, et il est temps que tu décides quel va être pour toi l'idéal de cette sortie d'Égypte. Est-ce que l'idéal de cette sortie d'Égypte, c'est l'échapper à la volonté, non? C'est-à-dire qu'il faut expier, parce que tu vis dans une ambiance chrétienne d'expiation permanente, ou est-ce que l'idéal de la sortie d'Égypte, c'est pas pour corriger mes fautes parce que je n'ai pas fauté, et j'ai pas l'intention de fauter, mais au contraire, c'est pour avoir une proximité permanente avec le Créateur. Et bien en fait, c'est à nous de choisir, et je vous avoue que moi, ben j'ai choisi. Je vais prendre le premier Dayenu. Alors une fois qu'on a dit ça, ben il nous reste plus qu'à clore le Maggid avec l'enseignement de Rabban Gamliel, mais cet enseignement de Rabban Gamliel, on l'évoquera juste avant Pessah, la semaine prochaine, pour notre dernier cours au fil de la Haggadah numéro 4. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. À bientôt, les amis.